Radio Okapi. Le journal Joseph Cage.
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité pour suivre ce journal sur Radio Okapi. Voici le fait marquant de ce jour. Bingi, éducation en péril dans une zone post-conflit. Près de 400 élèves de l'école primaire Kitaviro poursuivent leur scolarité dans des abris des fortunes après la destruction de leur salle des classes lors des affrontements entre le FARDC et le rebelle de la FC M23. Goma, malgré la baisse du dollar, les habitants ne constatent aucun effet sur le coût de la vie. Dans une ville fortement dollarisée, la hausse du franc congolais ne se traduit pas encore dans le marché. En fin du journal, entretien avec Maître Olivier Ndole, responsable de l'ONG ACDH à Goma, autour du rapport mapping de l'ONU sur les violations graves de droits humains commises en RDC entre 1993 et 2003. Ouverture du journal par une alerte venue du Nord Kivu à Bingi, plus précisément village situé à 93 km de Butembo. Près des 400 élèves de l'école primaire Kitaviro poursuivent leur scolarité dans des conditions extrêmement précaires. En cause, la destruction de 6 salles de classe il y a quelques mois lors des affrontements entre les FARDC et le rebelle de l'AFC M23. Depuis, les enfants étudient dans des abris des fortune exposée aux intempéries et au manque de matériel. Les détails avec Martial Papimukeba.
Située dans la sous-division de Kitumbiro, l'école primaire Kitaviro a été fortement touchée par les affrontements. 6 de ces classes ont été complètement détruites par des bombes et sont désormais inutilisables. Actuellement, près de 400 élèves sont accueillis dans une école voisine uniquement l'après-midi, ce qui perturbe l'organisation des cours et affecte la qualité de l'enseignement. Le directeur de l'école, Kambale Mirevo, alerte sur la situation et appelle à une intervention urgente des autorités et des humanitaires pour reconstruire cette infrastructure scolaire. Selon lui, la reconstruction de l'école primaire Kitaviro est une priorité en fait de garantir aux enfants un environnement propice à l'apprentissage et de protéger leurs droits fondamentaux à l'éducation. Signalons que les différents affrontements entre groupes armés dans les territoires des Lubero ont déjà provoqué le déplacement de plusieurs habitants. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Cap sur l'Ituri où l'éducation est appelée à devenir un levier de paix. Ce mercredi, lors d'une conférence sur l'éveil patriotique, le président de l'Union des associations culturelles et de développement de l'Ituri, UNADI, a interpellé le ministre de l'Éducation nationale, Michel Meta, plaide pour l'intégration prioritaire des cours de civisme et de nouvelles citoyennetés dans les écoles primaires et secondaires, en particulier dans les zones en conflit à l'est de la RDC. Objectif, inculquer aux jeunes générations les valeurs de paix, de patriotisme et de bonne gouvernance afin de rompre avec les cycles de violence qui frappent l'Ituri aujourd'hui, confronté à son 8e épisode de guerre. Michel Meta s'exprime au micro d'Isaac Remoyope.
Il y a la question du patriotisme au niveau des écoles. Vous allez constater avec nous la pondération pour les cours de civisme ou soit de l'éducation à la citoyenneté, c'est juste 10 points. Alors que d'autres cours sont à 60 points, ça veut dire que nous, au niveau de l'éducation, on doit beaucoup donner la valeur au cours de l'éducation à la citoyenneté pour que la question de la citoyenneté commence dès le bas âge, ça peut apporter la paix dans la province et dans la République en général. Réellement qu'il y ait cette éducation à la citoyenneté pour les autorités qui détournent des grands montants et en même temps pour la jeunesse qui a trait à démonter. L'Ituri a trait à traverser le 8e cycle de violence. Si un travail ne se fait même pas avant pour briser ce cycle de violence avec une jeunesse transformée, avec une jeunesse patriote, c'est que nous connaîtrons toujours des cycles de violence récurrents dans la province de l'Ituri. C'est pour cette raison l'éducation à la citoyenneté, c'est vraiment une priorité et que les autorités qui travaillent dans le cadre de la réforme de l'enseignement doivent en tenir compte.
Économie, le franc congolais reprend du souffle, mais le panier de la ménagère reste lourd dans plusieurs zones de la RDC. Le dollar américain s'est vraiment récemment affaibli face au franc congolais, nourrissant l'espoir d'une baisse de prix de biens importés. Pourtant, sur le terrain, les consommateurs restent prudents. À Goma, notamment, région fortement dollarisée, cette variation du taux de change ne se reflète pas encore dans le marché. Enoch Katumbi nous en dit plus dans ce reportage.
À Goma, l'usage du dollar est monnaie courante, surtout pour les produits des valeurs. L'approvisionnement en produits manufacturés importés dépend fortement d'une devise étrangère, le dollar américain. Dans cette ville, les taux d'échange officiels ou de marché parallèle varient fortement selon les zones, les cambistes ou les agents de transfert d'argent mobile. C'est entre 2700 et 2800 francs congolais pour un dollar américain. Au marché Birere de Goma, les vendeurs affichent des prix en francs congolais, parfois en dollars ou les deux. Le flou persiste. Pourtant, malgré la baisse du taux d'échange, les commerçants hésitent à réduire leurs tarifs. Côté consommateur, la déception est palpable.
Ici chez nous à Goma, nous ne sentons pas aussi cet impact de la baisse des dollars sur le panier ménager car les banques restent toujours fermées et il n'y a pas aussi la circulation des monnaies.
Certains opérateurs économiques expliquent que les prix dans les marchés locaux ne se réajustent pas chaque jour. Les stocks achetés antérieurement à un taux élevé demeurent vendus à l'ancien coût. Dans une ville comme Goma, fortement dépendante des produits venus de l'étranger, la chute du dollar n'est donc pas automatiquement synonyme de baisse des prix. Les consommateurs devront attendre plus de transparence et de concurrence pour espérer sentir un véritable soulagement au niveau de leur panier, dit un économiste.
À Kinshasa, cette fluctuation du taux de change alimente la spéculation et perturbe à la fois les opérations de change et les dépenses quotidiennes, constat sur le terrain avec Dona Madimba.
La parité franc-congolais dollar en RDC est vite passée de 2700 francs congolais le dollar dès le début de l'appréciation du franc congolais il y a deux semaines à aujourd'hui, 2500 francs le dollar, voire moins selon les humeurs et la tête du client. Outre cet exemple, il y a désormais aussi dans certains bureaux de change la rétention volontaire des devises, voire le marchandage de celles-ci. Ces bureaux prétextent la pénurie des devises proposant au même moment aux demandeurs de passer l'opération s'ils acceptent une parité plus faible encore. Dans certaines opérations de dépenses quotidiennes, les commerçants qui acceptaient sans aucun problème d'être payés même directement en dollars refusent cette devise exigeant de n'être payés qu'en francs. Entre-temps, les prix de biens sur le marché n'ont pas encore été arrimés au nouveau pouvoir d'achat, tout comme personne ne sait pour le moment jusqu'où vont déboucher ces multiples taux de change, mais aussi leurs effets.
Pour refermer ce chapitre économique, cap sur les formalités du commerce extérieur. Dès le 5 octobre, tous les opérateurs économiques devront soumettre leurs demandes au renouvellement de numéros import-export exclusivement via la plateforme électronique du guichet unique intégral du commerce extérieur. Cette mesure marque le début de la dématérialisation des procédures d'import-export en RDC, annonce faite ce mercredi à Kinshasa par le ministère du Commerce extérieur à travers un communiqué officiel. Jules Mwilu Mbo, secrétaire général au ministère, apporte des précisions au micro de Grace Amzati.
Comme vous le savez, le ministère du Commerce extérieur dispose dans son arsenal tout un service qui a pour charge de contribuer à la facilitation des échanges commerciaux, de faire l'interface entre ces opérateurs économiques et les autres structures. Évidemment, cette disposition est également contenue dans l'accord sur la facilitation des échanges qui impose à tous les membres d'établir ou de maintenir un guichet unique permettant de déposer tous les documents nécessaires à la réalisation du mouvement d'importation, d'exportation et de transit. Il est vrai que la RD Congo a déjà commencé dans cette procédure, mais elle était encore matérielle. Il fallait que l'opérateur économique se déplace d'un guichet à un autre pour déposer les documents nécessaires aux différentes opérations, soit d'importation ou d'exportation, et pour certains cas de transit. Et donc, à travers cette procédure, c'est en un seul point unique que l'opérateur économique se rendra pour déposer. Pas pour déposer matériellement, mais à travers une plateforme numérique, il entre dans cette plateforme numérique afin qu'il puisse non seulement demander soit le numéro pour l'export, mais également pour toutes les autres procédures liées à l'importation ou à l'exportation.
En quête de leur salaire impayé depuis juillet, août et septembre 2025, plusieurs inspecteurs de travail du Nord Kivu séjournent à Kisangani depuis plus d'un mois. Malgré les assurances répétées de la banque BOA, aucune solution concrète ne leur a été apportée. Livrés à eux-mêmes, ces agents vivent dans des conditions difficiles, dans l'attente d'un dénouement. Reportage signé Jacques Mokonkole.
Ils sont plus de 150 les inspecteurs du travail du Nord Kivu en attente de leur salaire de base. Ils ont été délocalisés des Kiti BCDC où ils percevaient régulièrement leur salaire au profit de la banque BOA. L'agence de Kisangani étant la plus proche du Nord Kivu, ils y ont été recommandés pour ouvrir leur compte afin de recevoir leur salaire. Pour atteindre Kisangani, ils disent avoir emprunté la voie routière pendant plusieurs jours, bravant différentes difficultés et tracasseries militaires. Curieusement, bien qu'ayant rempli toutes les formalités administratives, ils n'ont reçu ni les numéros des comptes, ni encore moins leur salaire. C'est pourquoi ils interpellent différentes autorités, dont le vice-premier ministre de la fonction publique, le ministre de l'Emploi et du Travail, l'inspecteur général du Travail ainsi que le directeur administratif et financier de l'IGT, afin de résoudre leurs problèmes. Steve Bigirimana est leur porte-parole.
Pour qu'ils puissent intervenir pour notre cause, l'équipe qui se trouve à Kisangani vit difficilement et cela nous prend beaucoup, beaucoup de moyens. Et nous attendons percevoir nos salaires afin que nous puissions retourner vers nos milieux d'affectation, c'est-à-dire à Beni. Kisangani, continuons à faire des tours à l'agence de la BOA qui ne nous donne aucune suite favorable.
Pour le moment, le gérant de l'agence BOA n'est pas disponible pour répondre à ses préoccupations. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Nord Kivu, le lancement des travaux de réhabilitation routière à Beni ce mercredi. Le gouverneur de province a donné le coup d'envoi officiel des travaux de réhabilitation de 3 axes routiers dans la ville et les territoires de Beni. Ces chantiers s'inscrivent dans le cadre du projet Star Est dédié à la stabilisation et au relèvement de l'Est de la RDC à travers des activités à haute intensité de main-d'œuvre. Pour l'autorité provinciale, ces travaux visent à améliorer l'accès de l'aide humanitaire et appuyer les efforts de sécurisation des populations locales. Marc Marofimbo nous en dit plus.
Le premier axe long de 12 km relie les quartiers Kuka et Mavivi dans la ville de Beni. Le second est le boulevard Béou, long de 2,5 km également en ville de Beni. Le troisième, beaucoup plus long, c'est 4 km, relie les localités Maboya et Kantine dans le territoire de Beni. Selon le gouverneur du Nord Kivu, le général Evariste Kakulesomo qui a lancé ces travaux, ces routes en terre battue représentent un enjeu à la fois sécuritaire, économique et humanitaire.
La réhabilitation de nos axes routiers facilite en même temps la sécurisation de la population, l'accroissement économique de notre milieu, l'acheminement de l'aide humanitaire et beaucoup d'autres avantages. C'est pour cela que je félicite le Star Est ainsi que tous nos bailleurs de fonds avec lesquels nous avons commencé ce processus et nous irons jusqu'au bout. Notre pays, à cause de la guerre injuste que nous connaissons, ressemble à une parcelle non mise en valeur depuis 30 ans maintenant. Il est temps de nous lever et de travailler dur.
Au total, 375 ouvriers travailleront sur ces projets, dont la ville de Beni et 1500 autres seront mobilisés pour l'axe Maboya-Kantine dans le territoire de Beni, dont 25% d'ex-combattants sélectionnés par les programmes de désarmement, de mobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation PDDSS. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Kinshasa, quand l'exode urbain devient un choix de vie face au loyer exorbitant, à la promiscuité, à l'instabilité des quartiers surpeuplés, de nombreuses familles kinoises ont décidé de prendre le large, quitte à s'éloigner du centre-ville. Elles optent pour des zones moins denses, parfois peu aménagées, mais où elles peuvent vivre sur leur propre parcelle, loin du stress locatif. Malgré les défis, accès limité à l'eau potable, à l'électricité et aux services de base, ces familles revendiquent une vie plus sereine, marquée par l'autonomie et un sentiment de bien-être. Un reportage signé Gloriane Lepeya et Nenel Bamani.
Ces choix, Madame Sylvie et sa famille l'ont fait il y a 3 mois en quittant leur quartier d'Enjili pour Terre Jaune sur la route Sekoma Fakimbanteke avec pour voisin direct des jardins. En dehors de son logement, elle dispose de maisons commerciales, une porcherie, un beau potager dont elle revend le produit, un forage, du calme et de la nature. Mais le choix de quitter n'a pas été facile.
Au début, j'étais réticente, mais en voyant le coût de la vie, le loyer et la scolarité des enfants, nous avons préféré aménager chez nous.
Comme elle, d'autres ont sauté les pas. Hervé Otoko est parti de Briki Nangaliema pour le quartier Kimbondo, près de Maman Koko à Mongafula. Ces familles témoignent de leur nouvelle réalité, loin de la pression urbaine, mais proche de la tranquillité.
C'était une expérience un peu difficile tout au début, mais avec le temps, on a pu se conformer en fait avec les réalités que nous avons trouvées sur place. Mais de vraies motivations, parce que là où on était quand même locataires. Là où nous sommes aujourd'hui, bon, c'est chez nous.
Toutefois, les manques d'eau potable et d'électricité restent des défis majeurs.
Ce qui nous dérange, c'est le manque d'eau et d'électricité. Nous recourons aux panneaux et au fourrage. En tout cas, nous sommes vraiment à l'aise ici avec les enfants.
Ajoutez à cela les embouteillages pour ceux dont le lieu de travail ou d'études sont situés plus loin.
Actualité internationale.
Au Liban, une frappe israélienne a visé une voiture sur la route Jarmak-Kardali ce jeudi, faisant 2 morts et 1 blessé, selon le ministère libanais de la Santé. L'armée israélienne mène régulièrement de raids dans cette région, affirmant cibler le Hezbollah pro-iranien malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis novembre 2024. L'ONU, qui a confirmé la mort de 103 civils depuis les débuts de la trêve, appelle à un arrêt immédiat des hostilités.
L'invité.
Invité du jour, Maître Olivier Ndolé, voix engagée pour la justice, responsable de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et le droit de l'homme ACDH, basé à Goma. Il revient sur le rapport mapping publié par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme le 1er octobre 2010. Ces documents recensent les violations les plus graves des droits humains et du droit international humanitaire commises en RDC entre mars 1993 et juin 2003. Entretien conduit par Grace Hamzati.
Maître Olivier Ndolé, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Ça fait 15 ans depuis la publication du rapport Mapping. Quelle est, selon vous, la pertinence de ces rapports?
Je pense que la pertinence de ces rapports, c'est le fait que ces rapports existent et que ces rapports aussi attestent qu'il y a eu des violations massives des droits de l'homme qui, à mon sens, demandent une certaine réparation, mais aussi voudraient interroger, même si vous voulez, la performance judiciaire, non seulement par rapport à l'État congolais, mais aussi par rapport à la justice internationale. Donc, son importance, c'est le fait qu'il y a eu donc ces investigations-là avec plusieurs acteurs, que ce soit les acteurs au niveau interne comme au niveau international, même au niveau de l'ONU, qui ont attesté quand même qu'il y a eu des violations des droits de l'homme, que ce soit à rapport avec des vies humaines, à rapport avec des biens et même des entités d'intérêt public, et qu'il faut donc une justice, il faut une réparation, même si jusqu'à présent il n'y a jamais eu de justice, mais aussi réparation, mais quand même au moins il y a ces documents de référence qui existent.
Alors, la publication de ces rapports avait suscité un espoir dans le chef des victimes, des atrocités dans la partie est du pays notamment. Aujourd'hui, quelle est la perception que cette communauté ou que ces communautés peuvent avoir de la suite réservée justement à ces rapports?
Je pense que la perception actuelle, comme vous le savez, il y a encore d'autres violations qui s'accumulent. Et au-delà de ces violations, il y a aussi d'autres auteurs. Bien qu'il y a, par exemple, des États qui avaient été condamnés et qui sont en train de payer, par exemple, des réparations. Mais d'autres auteurs qui étaient de connivence avec ces États-là sont dans des institutions publiques actuellement. Et donc, toute cette situation, couplée avec l'essor réservé à ces rapports, que ce soit au niveau national comme international, comme un silence beaucoup plus coupable, je pense, n'est là que pour renforcer un désespoir par rapport, si vous voulez, à toutes ces communautés qui ont crié que quand même ces rapports étaient un document référentiel, un document qui devrait leur servir d'outil en termes de recouvrement de justice, en termes de recouvrement de réparation. Donc les gens sont un peu en désespoir, mais voilà, actuellement encore, il y a d'autres violations et plus jamais qu'il y ait quand même des aspects liés à des primes à la guerre, donc il faut stopper.
Et qu'est-ce que vous appelez prime de guerre?
Prime de guerre, comme vous le savez, ça fait plus, je crois, de 30 ans que dans notre société congolaise, il y a eu des gens qui actuellement sont en bonne santé politique du fait qu'ils ont été des chefs de milice, qu'ils ont fait des rébellions. Et à travers, si vous voulez, ces processus-là, ça a créé une certaine valorisation des acteurs qui font la guerre pour entrer dans les institutions. Ils sont nombreux. Quand l'ancien président de l'Assemblée disait qu'il faut que des députés quittent les groupes armés, il s'agit de cela, parce qu'on a érigé la violence à un programme politique, les gens ont érigé les armes à un programme politique pour accéder à des postes de responsabilité. Et ça, je pense que ce qui fait que la RDC ne puisse pas avancer. Il y a des gens qui peuvent faire tout ce qu'ils peuvent, ils peuvent détourner de l'argent, mais comme on a peur de que s'ils sont limogés, ils vont commencer la guerre, on s'était, et d'autres qui sont pacifiques, qui n'érigent pas la violence en mode de programme politique, ils sont poursuivables. Je pense qu'il faut que cette politique cesse.
Qu'est-ce que vous recommandez pour que les recommandations contenues dans ces rapports soient réellement mises en exécution?
Il faut suffisamment une volonté politique. Il faut aussi une mobilisation au niveau international. Parce qu'on vous le savez, la question judiciaire, la question des réformes juridiques institutionnelles doivent beaucoup plus avoir une politique sensible par rapport à la lutte contre l'impunité, mais aussi une politique sensible par rapport à la vie humaine. Donc il faut vraiment cette mobilisation de tous les acteurs pour que l'on puisse évaluer par rapport à toutes ces recommandations, lesquelles ont déjà eu des réponses et lesquelles n'ont jamais eu de réponse et pourquoi les réponses tardent à venir, mais aussi tous ceux qui ont trouvé une santé politique par rapport à la violence qu'ils ont démontrée comme étant leur programme politique puissent quand même se repentir et puis subir la rigueur de la loi et faire réparation à toutes les victimes.
Maître Olivier Ndolé, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Fin de cet entretien avec Maître Olivier Ndolé, responsable de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et le droit de l'homme basé à Goma. Il revenait sur les enjeux du rapport Mapping et la nécessité de justice pour les victimes de violations graves commises en RDC entre 1993 et 2003. Merci de nous avoir suivis pour ce tour d'horizon de l'actualité. Ce journal vous a été présenté par Gisèle Cage. À la mise en onde, Alain Goy, coordination Richard Junior Kamunga, supervision Pauline Mouzalia. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. Bonne journée à toutes et à tous.